Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. À l'occasion de la journée de Jérusalem, nous sommes aujourd'hui en compagnie du Rav Uri Cherki. Bonjour Uri Cherki.
Bonjour à tous, à tous nos auditeurs.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette émission spéciale au cours de laquelle on va faire un exercice un peu particulier puisque nous allons passer en revue, si vous le voulez bien, les principales critiques qui sont adressées en ce moment à Israël un peu partout dans le monde et notamment en Europe et auxquelles donc vous allez nous donner vos réponses. Et puisque c'est la journée de Jérusalem, on va commencer par là. Il y a 59 ans, Jérusalem était en effet réunifiée. Pourquoi est-ce que les Israéliens refusent-ils de considérer Jérusalem comme une ville trois fois sainte pour les trois grandes religions monothéistes? Est-ce qu'un statut international, par exemple, ne serait pas plus adapté à la réalité spirituelle de la ville, Uri Cherki?
Les Israéliens ne refusent absolument pas d'accepter la réalité qui est que la ville de Jérusalem est une ville universelle. Et donc elle concerne toute l'humanité, entre autres les trois religions dites monothéistes. Mais c'est justement parce que Jérusalem est une ville d'une importance capitale qu'elle doit être gérée justement par le peuple universel, par celui qui est capable de faire de cette ville quelque chose de vivant qui aurait un message pour l'humanité. Tandis que si vous faites un statut international genre UNESCO, alors vous transformez cette ville en un musée intéressant sur le plan touristique, mais qui n'aura pas la puissance qu'elle doit avoir, qui est celle justement d'être la lumière du monde. Comme disent les prophètes d'ailleurs, c'est de Sion que sort une Torah et la parole de Dieu de Jérusalem.
Voilà, sauf que les chrétiens aussi prétendent à l'universalité et les musulmans aussi, puisque l'ensemble...
Oui, bien sûr, les chrétiens et les musulmans sont inspirés justement par cette Jérusalem qui a été justement, au cours de l'histoire, le lieu vivant du peuple vivant. Et donc, c'est justement cette dette qu'entretiennent aussi bien la chrétienté que l'islam envers le peuple d'Israël, c'est ça justement qui nécessite la présence politique, entre autres, de ce peuple dans sa ville capitale.
Alors, il y a une mosquée sur le mont du Temple actuellement. Est-ce que vous voulez revenir sur le statu quo de cet emplacement?
Le statu quo de cet emplacement, c'est que le statu quo général en Israël, c'est la liberté de culte pour tous les cultes. Et alors, donc, il est tout à fait évident que si c'est sur le mont du Temple, comme vous l'avez si bien dit, que se trouve cette mosquée, il est tout à fait normal que les Juifs aient accès également au mont de leur Temple, qui a été également accepté par les musulmans. Je tiens à rappeler un fait historique important, c'est que à l'origine, la mosquée d'El-Aqsa, qui se trouve au sud du mont du Temple, dans la partie qui n'est pas consacrée, a été construite là-bas justement pour ne pas porter atteinte au lieu saint des Juifs. Et la coupole d'or qui domine le rocher, cette coupole du rocher, n'était pas une mosquée, mais pas du tout. C'est un monument qui a été fait justement en l'honneur du temple des enfants d'Israël. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, vous pouvez voir à l'intérieur de la coupole, il est écrit « Ceci est le lieu du temple ». C'est écrit en arabe.
Quant aux chrétiens, leurs lieux saints sont incontestablement aussi dans la ville, dans la vieille ville aussi. Est-ce que ça ne donne pas des droits sur une forme de co-gestion des lieux, finalement, de cette ville de Jérusalem?
Il y a une différence entre ce qu'on appelle une souveraineté nationale et une gestion de propriété. Le fait qu'il y a des lieux qui sont considérés comme saints par les chrétiens, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait respectable. Le fait que cela se trouve dans la souveraineté du peuple juif, cela est tout à fait normal aussi. Personne n'a jamais contesté la souveraineté des Ottomans à l'époque où c'était eux qui géraient la vieille ville, alors qu'ils donnaient des droits de gestion aux différentes églises du lieu, chose qui d'ailleurs est continuée jusqu'à ce jour, sans violation.
Ce qui vaut pour Jérusalem vaut plus largement pour l'État palestinien, pour ce qu'on appelle l'État palestinien. Qu'est-ce qui fonde le rejet par Israël, apparemment assez général aujourd'hui dans l'opinion, de la solution à deux États?
Il n'y a pas de solution à deux États pour une raison très simple. C'est que du point de vue des Palestiniens, du point de vue d'ailleurs du panislamisme, c'est la Palestine tout entière, c'est-à-dire qui doit être dominée par l'islam, et donc c'est un rejet de principe de l'existence même de l'État d'Israël, de sa légitimité historique. Or, rappelons une chose importante, qui m'a été confirmée d'ailleurs par des autorités musulmanes, c'est que du point de vue du Coran, la terre d'Israël est attribuée aux enfants d'Israël en exclusivité. Maintenant, le fait qu'il y ait une population qui n'est pas celle des enfants d'Israël sur notre territoire, c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait gérable. Il y a toujours le statut de l'étranger que la Torah, d'ailleurs, incite à, engage à respecter. Mais l'étranger est étranger. C'est-à-dire, il sait très, c'est comme si, par exemple, vous avez une population de citoyens qui ne sont pas français sur le sol de la France et qui ont un passeport d'un autre pays, quel qu'il soit, et parce que ils sont présents sur votre sol, diraient oui, c'est nous la France. Non, non, ça marche pas. C'est il y a toute une procédure dans tout État. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à la citoyenneté entière, le droit de vote et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que parler aujourd'hui d'un État palestinien, c'est en fait remettre en question non seulement l'existence de l'État d'Israël, mais c'est alimenter le panislamisme et tous les dangers qu'il représente. D'ailleurs, nous savons très bien que cette population n'est pas simplement pacifique, elle est hostile, violente, et donc il faut savoir résister au nom du monde libre à ses prétentions justement d'effacement de l'État d'Israël.
Autre critique, le gouvernement israélien veut réaliser le grand Israël de la mer au Jourdain, peut-être même au-delà. Est-ce qu'il vous paraît légitime, par exemple, qu'Israël annexe aussi les territoires dits palestiniens, en l'occurrence Cisjordanie, Judée Samarie?
J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que les Juifs s'appellent des Juifs. Je crois que c'est parce qu'ils sont des Judéens. Qu'est-ce que fait un Judéen en Judée? C'est quand même assez bizarre. Qu'est-ce que fait un héritier des tribus de Samarie en Samarie? Ça serait quand même assez bizarre que justement cette terre qui est la terre de la Bible ne soit pas habitée par le peuple de la Bible.
Est-ce qu'il existe des limites territoriales à l'État d'Israël, Richard Kay?
Comme tout État, c'est évident. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'État qui n'a pas eu de frontières. Il n'y a jamais eu d'État qui n'a pas changé le tracé des frontières d'une manière ou d'une autre au cours de son histoire. Effectivement, l'État d'Israël a été fondé de manière extrêmement exiguë en 1948 dans un territoire à peine vivable. Et c'est après l'agression des nations arabes pendant la guerre des Six Jours que le territoire a été élargi jusqu'aux frontières bibliques, ce qui est finalement ne peut pas ne pas résonner sur l'identité hébraïque qui est en train de se créer et d'évoluer au sein de ces frontières.
Voilà, on va reparler de cela aussi. Plus généralement, on accuse le gouvernement israélien, en particulier le courant dit sioniste religieux, d'être des messianistes, de mettre la région, le monde en danger. Est-ce qu'on peut être messianiste sans être un fauteur de guerre, Rav Shirky?
On ne peut pas être moral si on n'est pas messianique. C'est-à-dire, être messianique, simplement désirer que l'état du monde change du mal vers le bien. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas accepter, par exemple, que le monde soit rempli de guerre, de maladie, d'animosité, de méchanceté. Et donc, l'aspiration messianique est fondamentalement une aspiration morale qui, d'ailleurs, se retrouve dans tous les grands courants de pensée, dans toutes les idéologies, dans toutes les religions. Il y a ce désir, justement, d'un monde meilleur. Alors, on peut caricaturer ça et dire, ah, dans ce cas-là, c'est accepter la violence. Mais pas du tout. C'est exactement le contraire. La violence est une donnée de la nature humaine, hélas, et c'est cette donnée que nous voulons changer. Il est évident que pour accéder à un monde meilleur, il faut également passer par le rétablissement de la justice. Or, la justice est entre autres de récupérer ce qui a été volé au peuple d'Israël lors de son exil, c'est-à-dire sa terre.
Alors, effectivement, mais le problème, c'est parfois l'idée de vouloir, disons, accélérer le cours de cette histoire, de cette amélioration souhaitée, voulue comme un idéal. Est-ce que le danger n'est pas dans cette volonté de précipitation?
Eh bien, au contraire, le danger se trouve de la part de nos opposants, qui, eux, n'hésitent pas, eux, à nous attaquer, à nous faire la guerre, de la manière la plus violente et la plus barbare qui soit. On n'a jamais vu l'État d'Israël avoir l'initiative d'une guerre pour récupérer son droit, bien qu'il pourrait le faire. Mais le fait est que la violence se trouve justement de l'autre côté et pas du nôtre.
Voilà, vous ne parlez pas des guerres de 67 quand même, qui étaient une guerre dite préventive, ou même cette guerre contre l'Iran.
Non, 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 la guerre de 67, c'est la guerre des 6 jours, bien qu'elle ait, disons, sur le plan formel, eu une forme préventive, en fait, était une défense. Les armées arabes s'apprêtaient à envahir le jeune État d'Israël et de l'éradiquer. Alors, dans ce genre de situation, vous n'allez pas dire parce que je prends ma défense à l'avance que je prends l'initiative de la guerre. Non, non, ça n'a rien à voir.
On accuse aussi Israël d'un usage disproportionné de la force, notamment, ça a été le cas pour Gaza, pour le Liban maintenant. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation de disproportion?
Alors, ce que vous voulez dire, c'est que si il faut que la réaction à la violence barbare soit proportionnée, alors ça voudrait dire que il faudrait que les Israéliens brûlent autant de bébés qui ont été brûlés par les Palestiniens lors du 7 octobre, que les Israéliens violent autant de femmes qui ont été violées lors de l'attaque du 7 octobre. Alors, vous voyez jusqu'à quel ridicule ça arrive. Face à la violence, on n'est pas proportionné, on réagit pour effacer toute velléité éventuelle dans le futur d'une même violence, de la répétition de cette violence.
Donc vous revendiquez en quelque sorte cette disproportion.
Ce n'est pas une disproportion, c'est une réaction naturelle. Si vous vous faites attaquer dans la rue par des voyous, alors vous n'allez pas donner autant de coups qu'ils vous donnent. Vous faites tout ce qui est nécessaire pour dominer justement cette violence.
Alors, encore une accusation, celle de contester ou parfois de violer le droit international. Pourquoi Israël rejette-t-il une norme internationale?
De quelle norme internationale vous parlez?
Le droit international en général, tel qu'il est défini par les
Jamais.
Nations Unies.
Alors, non, alors je pense que c'est tout à fait une erreur. L'État d'Israël n'a jamais violé le droit international. Je pense que c'est très important de le comprendre. Soit dit en passant, on accuse Israël de violer le droit international par ses implantations en Judée et en Samarie, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout une violation, étant donné que ce territoire n'a jamais été un territoire qui aurait appartenu à un autre pays. Quand la Jordanie a occupé ces territoires, ça n'a été reconnu que par deux États au monde, les Jordaniens eux-mêmes et les Britanniques. Le reste du monde a toujours considéré que cette occupation était illégitime. Donc, il n'y a pas eu de violation du droit de qui que ce soit.
Autre terme utilisé pour critiquer la politique du gouvernement, qui revient souvent dans la bouche de ses détracteurs, c'est le terme de suprémaciste. Alors, selon la définition admise, le suprémacisme, c'est une idéologie de supériorité, de domination, qui affirme qu'une certaine catégorie d'êtres est supérieure aux autres et se doit de les dominer, voire de les asservir, ou qu'elle est en droit de le faire. Alors là encore, sur ce terme de suprémaciste, qu'est-ce qu'on peut
Vous
en
vous
dire,
rendez compte le
monsieur?
ridicule de la chose. C'est comme si vous disiez, par exemple, que les parents n'ont pas le droit d'exercer leur autorité parentale parce que ça serait de la suprématie. De même, pour ce qui est du peuple d'Israël, le peuple d'Israël traditionnellement se considère comme un cœur parmi des organes. C'est-à-dire qu'il y a un organisme de l'humanité et chacun a sa place, chacun a sa mission, chacun a son rôle. Quand un cœur voudrait se prendre pour un autre organe que le cœur, il trahirait sa responsabilité envers les autres. C'est-à-dire si l'histoire a voulu, la Providence a voulu, qu'Israël ait un message pour les nations, c'est son devoir de le transmettre. Ça n'implique absolument pas une suprématie, j'irai même plus loin que ça. Il y a un très beau terme dans la tradition juive, ce qu'on appelle le peuple élu. Si vous êtes un peuple élu, ça veut dire que vous êtes élu parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un sens à l'ensemble des nations, et on peut dire que chaque peuple est élu pour sa mission. Alors, nous avons l'élection d'Israël, qui est là justement pour faire tant de bien à l'humanité. D'ailleurs, on peut voir qu'au cours des milliers d'années passées, finalement, c'est Israël qui a donné une contribution essentielle à l'avancement de l'humanité. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de faire le bien?
Alors évidemment, ça c'est, j'allais dire, vu de l'intérieur, vu de l'extérieur, il faut adhérer à cette idée qu'Israël a une
Oui, mais je vais vous
vocation.
dire, cette idée est tout à fait acceptée de manière implicite. Vous avez aujourd'hui 2,5 milliards d'individus sur la planète qui se revendiquent être le vrai Israël. Et de même, vous avez encore 1,5 milliard, je parle ici des musulmans cette fois-ci, qui prétendent être la continuité des prophètes d'Israël. Si on veut tellement être Israël, c'est qu'Israël est important. Ça veut dire que cette idée de centralité de l'identité d'Israël est admise de manière implicite par la civilisation universelle.
Et les Juifs n'en font pas un peu trop, Rav Cherki,
par bien rapport sûr, à ça. On en fait toujours, quand on fait du bien, on en fait toujours trop.
Que dites-vous aux Juifs de diaspora qui évoquent les dérives de l'État hébreu, qui disent qu'ils ont honte de ce que fait Israël en ce moment, et que ce sont les valeurs mêmes du judaïsme qui seraient bafouées?
S'ils le pensent vraiment, alors ils devraient participer à l'histoire d'Israël. Or, l'histoire d'Israël se fait dans l'État d'Israël. C'est le moment de l'histoire où nous sommes revenus à notre terre. Si quelqu'un a des critiques, il peut les formuler dans le cadre de cet État et non pas se mettre en dehors alors qu'il est en pleine sécurité et prétendre avoir honte de ce que fait l'État d'Israël alors qu'il ne fait que se défendre.
Si la diaspora s'érige en judaïsme authentique, est-ce qu'il ne faut pas craindre une forme de schisme entre juifs de diaspora, juifs
Absolument
israéliens?
Pas. Vous savez que l'histoire continue et il y a ceux qui sont dans les marges de l'histoire. Viendra un temps où cette opposition quasi maladive à l'État d'Israël fera partie des oubliettes ou en tout cas des archives de l'histoire d'Israël.
Alors, question à plusieurs millions de shekels maintenant. Finalement, vous avez dit que bon, Israël, chacun revendiquait d'être le virus Israël. Pourquoi Israël suscite-t-il autant de réprobation dans une bonne partie du monde?
Tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui une recherche de spiritualité extrêmement importante du fait justement de la crise morale et spirituelle de l'Occident et de l'Orient. Et cette crise invite donc à un nouveau discours. Ce discours, j'estime qu'il se trouve entre autres dans la parole d'Israël, et c'est toujours, on est toujours menacé par une remise en question de ces valeurs. C'est-à-dire, c'est comme si, on pourrait dire, l'Europe, qui porte en elle la culpabilité de la Shoah, aurait besoin justement, pour se justifier, d'accuser celui qui a été la victime. Et donc, il n'est pas du tout étonnant que le fait que l'État d'Israël soit aujourd'hui une des forces vitales les plus importantes dans l'histoire de l'humanité soit remis en question par ceux qui sont le témoignage de l'échec justement moral des valeurs défendues jusqu'à présent.
Comme si la souveraineté d'Israël aussi pouvait remettre en cause certaines doctrines ou certaines visions du monde.
Oui, évidemment, le christianisme a reçu un coup dur avec la fondation de l'État d'Israël. Ça n'a pas été évident pour le Vatican de reconnaître l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est admis quand même. Mais il y a toujours cette idée que l'État d'Israël n'aurait pas le droit à une véritable indépendance. Il serait dépendant de l'aval de la communauté internationale, ce qui n'est pas sans nous rappeler un peu le discours de De Gaulle, qui a reproché à l'État d'Israël de ne pas prendre son accord pour se défendre.
2 ans et demi après le 7 octobre, où en est la société israélienne? Vous avez parlé de cette hébraïsation. Est-ce qu'on peut faire un point aujourd'hui?
Il est très intéressant de voir qu'il y a aujourd'hui un approfondissement de l'identité juive au sein de l'État d'Israël. Cet approfondissement d'identité juive n'est pas forcément de type religieux, comme on aurait pu le penser. Mais il y a un retour à l'identité sans qu'on arrive toujours à bien la définir, mais il y a une sorte de fierté d'être Israël. Remarquez un point au niveau statistique, c'est l'État d'Israël, c'est la démographie de l'État d'Israël qui est probablement la plus élevée dans le monde libre actuel. Ce qui veut dire que la société israélienne est fondamentalement optimiste et avec tous les malheurs qui nous sont tombés dessus, eh bien, c'est une société qui reste dynamique et qui a foi en la vie. Alors, évidemment, il faut être, de ce point de vue-là, reconnaissant envers les médias. Parce que les médias disent exactement le contraire de ce que je vous ai dit. Ils créent une sorte d'écran qui dit que tout va mal. Et c'est extraordinaire parce que ça permet justement aux vagues de fond de la société israélienne d'agir librement, loin des projecteurs des médias.
Pourquoi ça changerait quelque chose si les médias retransmettaient
cette chose? Quand les médias se mêlent, vous savez, toujours quand des choses surnagent, elles sont immédiatement relatées.
Comment est-ce que vous voyez évoluer, alors question d'actualité, la suite de ce conflit avec l'Iran?
La suite du conflit avec l'Iran est intéressant de voir qu'en fait, c'est une lutte menée par les Américains en faveur du sunnisme contre le chiisme. Et en fait, alors que depuis Khomeini, le chiisme a commencé à avoir des prétentions de domination universelle, il va être, il devient déjà maintenant, il est beaucoup moins important. C'est le sunnisme qui l'emporte. Et donc la suite sera que le sunnisme lui-même devra choisir entre deux options, soit les frères musulmans, soit les accords d'Abraham.
Pourquoi les Américains voudraient-ils en finir avec le chiisme, enfin en servir le sunnisme pour détruire
Je
le
ne sais pas
sunnisme?
si c'est vraiment, disons, leur intention, mais c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils font, ça sera une victoire donc du sunnisme. Et c'est à partir de là qu'un véritable dialogue judéo-musulman sera possible, pas simplement un dialogue interreligieux respectueux comme c'est souvent le cas, ça sera vraiment une réconciliation au sein de la famille d'Abraham.
Voilà, je voudrais justement, pour terminer, évoquer, Rav Cherki, deux de vos activités, notamment en direction des nations.
Oui.
La première, c'est donc ce dialogue que vous avez initié avec une partie de l'islam chiite. Où en est ce
Non, sunnite.
dialogue
Sunnite.
sunnite, pardon, excusez-moi,
Oui.
l'islam sunnite. Où est-ce qu'il en est ce dialogue
Eh
est-ce
bien,
qu'il...
je reçois en permanence des réactions du monde musulman, souvent des personnes qui sont intéressées justement pour dépasser simplement les nécessités de la politesse dans le dialogue interreligieux. Il s'agit effectivement d'une invitation à une recherche profonde des sources du conflit entre l'islam et le judaïsme et trouver un moyen justement de se retrouver et pas simplement de se respecter. Ça, c'est disons pour l'option sunnite, et vous avez fait allusion, je crois, à une deuxième démarche,
Oui,
celle du
ça,
noachisme.
voilà, je
Oui.
vais en parler juste simplement, ces sources, juste pour terminer sur l'islam, les sources profondes de la divergence, est-ce qu'on a une idée de l'endroit où il faut les trouver?
Eh bien, tout simplement, il y a les musulmans veulent que le monde entier reconnaisse Mahomet comme étant un prophète. Bon, à la limite, ça serait éventuellement acceptable dans la mesure où ce prophète ne remet pas en question la validité de la Torah. Or, il y a une lecture possible dans le Coran, justement, qui admet que la Torah n'a pas été abolie et que donc Mahomet se serait adressé aux Arabes ou à d'autres nations, mais non pas à Israël. Donc c'est une idée à creuser qui est tout à fait, disons, possible dans une lecture du Coran. Cela est donc très important.
Sur ce moment où vous dites que le monde sunnite sera confronté à cette alternative, ou bien les frères
Évidemment.
musulmans ou les accords d'Abraham, comment
Oui.
voyez-vous les pays musulmans faire leur
Alors,
choix?
bon, pour tout vous dire, actuellement, l'option abrahamique est extrêmement minoritaire. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais étant donné que la réalité de l'État d'Israël s'impose, alors dans ce cas-là, cela peut faire évoluer justement ces options abrahamiques. Et donc
On
nous
dit
avons un espoir en tout cas.
parfois que la Turquie peut représenter, disons, un nouveau pôle d'hostilité dans ce monde sunnite.
Absolument. Il faut espérer que, disons, l'engagement européen de la Turquie pourra neutraliser ses velléités.
Alors sur le second front, si je puis dire, de votre action, celle que vous poursuivez pour regrouper, répondre aux attentes de ceux non-juifs de par le monde, hein, qui se tournent vers Israël, vers ses valeurs, ce qu'on appelle les Bnei Noach. Alors, est-ce qu'il se passe de ce côté-là également des mouvements,
Eh
des
bien, deux
évolutions?
choses intéressantes. Tout d'abord, nous allons tenir un congrès international des Noachides au mois de novembre, avec la participation du président de l'État d'Israël et encore d'autres personnalités de ce genre. Une partie de ce congrès se fera dans la résidence présidentielle elle-même. Et nous commençons donc à lancer les invitations à des Noachides du monde entier et des personnalités importantes.
Qui sont-ils, ces Noachides qui
Par
viennent vers
exemple,
vous?
le président d'Argentine, Milei, Javier Milei, également des autorités rabbiniques et des dirigeants des Noachides de par le monde entier.
Mais par rapport à, disons, j'allais dire, le Noachide moyen, entre guillemets, qui se manifeste, quel genre de personne est-ce et pourquoi finalement fait-il ce mouvement vers Israël? Est-ce que vous l'avez perçu, Rav Cherki?
Il y a tout simplement une recherche spirituelle très profonde. Je savais que les religions sont en baisse de popularité, mais la spiritualité, elle, est en hausse. Ce qui veut dire que, en fait, il y a, de par le monde, cette idée que, qui commence à, disons, à émerger, que le retour d'Israël est un événement qui concerne l'humanité tout entière, et donc il y a une écoute, une attente de savoir quel est ce message, quelles sont les valeurs que le peuple d'Israël, revenu sur sa terre, dispense à l'humanité.
Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès finalement qui aura lieu donc en novembre?
Le congrès est très important parce qu'il va lancer un message comme quoi le peuple d'Israël a quelque chose à dire aux nations. C'est-à-dire l'accusation de particularisme refermé, la religion refermée comme disait Bergson, va être démentie. Si les autorités spirituelles du peuple juif et les autorités politiques s'adressent aux nations, c'est donc qu'il y a une fraternité universelle qui est en train de s'établir et qui, qu'à Dieu ne plaise, soit une source de bonheur pour l'ensemble de l'humanité.
Parce qu'on parle beaucoup de l'antisémitisme, de l'antisionisme, mais à vous entendre, il existe aussi de nombreuses personnes donc non juives dans le monde entier qui ont
évidemment
la sympathie, qui expriment du soutien. C'est un phénomène encore discret, mais vous pensez qu'il est amené à s'accroître, à devenir plus visible à l'avenir?
Il n'y a pas d'autre possibilité. Le fait que, par exemple, dans l'univers américain, ça ait pris une telle ampleur, c'est justement parce que l'urgence de ce dialogue est ressentie.
Vous parlez de l'ampleur américaine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Noachides, notamment aux États-Unis?
Exactement.
Oui.
Il y a également une position pro-israélienne très nette dans l'établissement actuel aux États-Unis. Mais en fait, on voit qu'il y a également une distance entre les opinions publiques en Europe et les gouvernements. Si les gouvernements développent une hostilité envers l'État d'Israël, ce n'est pas le cas de la grande masse, justement, qui, elle, est consciente du fait qu'il y a d'abord un danger au niveau aussi bien politique que spirituel pour l'Europe et sa civilisation, et que peut-être, justement, la réponse à ces interrogations se trouverait dans le peuple d'Israël.
Qu'est-ce qui fait finalement qu'on résiste à la propagande, on va dire, anti-sioniste, anti-israélienne, quand on n'est pas juif, et qui fait que finalement on arrive
à... Tout simplement la droiture, c'est-à-dire, je pense, une stature morale qui comprend où se trouve la violence et où se trouve la paix.
Comment se présente cette journée de Jérusalem, Rav Shirky, cette année?
Comme chaque année, il y a le défilé avec les drapeaux à travers la ville. De nombreux jeunes gens et jeunes filles défilent dans la ville et dansent intensément auprès du mur occidental. Et c'est à nouveau une nouvelle charge d'optimisme qui traverse la société israélienne.
Quel est le statut de ces dates, finalement, comme Yom HaShmaout, le jour de Jérusalem, dans le calendrier hébraïque?
Dans le calendrier hébraïque, c'est tout simplement un jour où il faut être reconnaissant envers le Créateur de nous avoir sauvés de l'extermination. C'est donc le 28 du mois de Iyar. Je tiens à rappeler d'ailleurs que, historiquement parlant, c'était également le jour de la première victoire militaire des Hébreux sortant d'Égypte contre les Amalécites qui les attaquaient. C'était le 28 du mois de Iyar. Donc c'est assez significatif. C'est un jour où finalement les Israéliens ont commencé à ressentir un lien avec le Temple de Jérusalem, avec leur histoire et leur histoire biblique. C'est comme si un événement biblique était en train de se réaliser en pleine modernité, et ça, c'est effectivement frémissant.
Voilà, on va terminer sur ce frisson. Merci beaucoup, en tout cas, Rav Shirky, d'avoir joué le jeu de ces questions-réponses critiques des adversaires d'Israël. Merci encore et merci à tous pour votre attention.
Bonne fête.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et pour suivre nos prochaines interviews, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.